Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Schakel ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il destro, e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 24e épisode du podcast Calcio et Pépé. Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tous.
Alors Guillaume, on va débriefer cette journée de Serie A, très très longue, très très espacée.
Hein,
on va
dire ça. Très riche.
Très riche aussi, très riche en buts, riche un peu en surprises parfois, avec une 20e journée marquée par... plusieurs résultats importants. On peut noter la Roma qui a battu le Torino, le Milan qui a battu le Genoa et la Lazio qui a perdu à Naples. Donc ça, c'est pour la course à la quatrième place. On peut noter donc que Naples a gagné et a augmenté son avance sur l'Inter qui n'a fait que match nul contre Sassuolo pour la course à la deuxième place. Et puis la Juve toujours intouchable dans son cavalier seul en tête de Serie A. Et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est que Empoli a pris un point tout comme Bologne, la Spal. Et donc pour la course pour le maintien et cette 18e place, ça semble... toujours aussi serré, même si l'Udinese et les Genois ont du mal aussi à prendre des points et à un peu se sortir de ce bas de classement où c'est toujours très très compliqué de manœuvrer. Je te propose qu'on commence par les matchs donc de cette 20e journée. Donc pour dérouler le sommaire, on va revenir évidemment sur la victoire de la Roma qui était le premier match de cette 20e journée, le match nul de l'Inter contre Sassuolo, la victoire de Naples contre la Lazio, la victoire du Milan sur la pelouse du Genoa Et puis, alors on va pas revenir spécifiquement sur la victoire de la Juve, puisque pour toi, pour être tout à fait honnête, et on n'a pas vu le match ni l'un ni l'autre.
Non. Donc plutôt soyons honnêtes.
Voilà, plutôt que de dire des banalités, on va s'en passer. Et puis on fera un autre dolce et pêle-mêle footballistique avec pas mal de petites choses à noter. Et puis on a demandé à nos amis de série Bellissima. C'est un compte Twitter et un site internet qu'on vous conseille de suivre. Dédié à la série B, de nous donner 4 joueurs de série B à suivre cette saison. Donc vous verrez, on sera avec Théo tout à l'heure en fin de podcast pour évoquer ces 4 joueurs. Et depuis qu'on a fait cet enregistrement, parce que pour être encore là une fois honnête et transparent, on a enregistré cette partie là la semaine dernière, je crois, de mémoire, Guillaume.
Oui, c'est
et
ça.
Et il y a déjà un des joueurs qui est fortement courtisé par un top club de série A, ai-je lu dans la presse italienne ces dernières heures. Voilà, alors je te propose de commencer du coup par le premier match de cette 20e journée. C'était un samedi à 15h.
Il y a eu des buts,
c'était Roma-Torino. Victoire de la Roma 3-2. Alors un match où il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que la Roma est encore passée tout proche de la catastrophe qui aurait été un match nul, on va dire, après avoir eu des buts d'avance, ce qui est déjà arrivé de nombreuses fois cette saison, de concéder des buts en fin de match ou après avoir marqué un ou deux buts en ouverture de la rencontre. La deuxième chose, c'est que il y a un joueur qui est en train de vraiment crever l'écran et prendre le pas sur un peu tout le monde. Alors,
est-ce que ça commence par un Z?
Exactement, d'un Z qui veut dire Zoro. Bah, écoute, là, c'est plutôt le Z qui veut dire Zaniolo. C'est un peu le sauveur de la Roma depuis quelques semaines. Alors, on va éviter là encore de s'enflammer parce que on sait que le parcours d'un jeune joueur est parfois compliqué, semé d'embûches, de hauts et de bas, de régularité et d'irrégularité, donc on va rester assez calme sur ce joueur-là, mais il faut noter quand même que depuis ses débuts, il réussit à étonner tout le monde, Guillaume.
Oui, après comme tu dis, il ne faut pas s'enflammer, mais ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que c'est quand même un gros potentiel. On rappelle qu'il avait été inclus dans le deal avec Nainggolan. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on va pas se mentir, on le connaissait pas beaucoup.
Non.
Tout le monde en disait du bien, mais du moment que tu vois pas, c'est vrai que t'as un peu de mal à y croire. Mais c'est vrai que c'est un peu la caution jeunesse de la Roma, et c'est vrai que ça fait du bien parce que c'est un joueur qui brille, c'est un joueur en plus, voilà, moi, l'aspect physique pour moi est aussi important, je vois qu'il a une bonne bouille. Voilà, donc, c'est vrai que on a envie de l'apprécier, honnêtement, même dans le jeu, dans ce qu'on a pu voir, même face au Torino samedi, déjà son but.
Ouais.
C'est pas un but anodin. Il est pas. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, je conseille de le voir. C'est pas une frappe de 30 mètres, certes, mais dans la façon de se retourner, il est par terre et il se bat. Il fait une première frappe et il lâche pas. Enfin, c'est un vrai but. D'ailleurs, Caressa, le célèbre commentateur qui commentait, est resté assez scotché par son but et par son match, parce que c'est vrai que son match a été complet, un gros volume de jeu. On a pu voir sur Twitter, voilà, des extraits de ses dribbles ou sa conduite de balle, mais il n'y a pas eu que ça. Il sait parfaitement se caler entre les lignes. Il a une belle passe, il a un beau dribble, comme on a dit, il avait une belle conduite de balle. Donc c'est vrai que c'est un peu le, voilà, la Roma s'est un peu agrippée à lui quand ça allait pas, et maintenant que ça va mieux, il est toujours là. Donc voilà, c'est le joueur qui fait du bien, les motifs aussi, et on sent bien que il commence sérieusement à s'y attacher, c'est normal au vu des matchs qu'il est en train de faire avec la Roma.
Alors, tu parlais de tout l'aspect technique qui est évidemment éminemment important et c'est ce qui nous saute aux yeux évidemment dès le départ, dès qu'on le voit jouer. Moi, il y a un autre axe qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect physique et puis aussi le caractère du garçon. Ce que j'aime, c'est qu'il ne lâche rien et on sait qu'à la Roma, c'est une qualité vraiment très rare. Alors à voir s'il réussira à maintenir ça, parce que on sait que l'environnement fait que c'est un peu la belle vie, un peu la dolce vita, et parfois on a un peu tendance à oublier la rigueur du travail du footballeur du côté de la Roma. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que Di Francesco en parle sans arrêt. Et c'est pas anodin, il en parle depuis le début de la saison, il souligne à chaque fois le travail qu'il fait à l'entraînement. Ses bonnes aptitudes lors des exercices et puis aussi surtout qu'il répond parfaitement sur le plan mental aux exigences de l'entraîneur, que ce soit la semaine à Trigoria, le centre d'entraînement, ou en match. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu des petits messages délivrés à d'autres joueurs par ce biais-là, en expliquant que si tous les joueurs avaient ce niveau d'exigence au quotidien, le début de la saison de la Roma aurait peut-être été un peu différent. Donc ce côté-là est important, on l'a vu sur le but, hein, le fait qu'il ne lâche rien, qu'il reprenne le ballon, qu'il le contrôle, qu'il soit à terre, qu'il l'arrache, qu'il tente une deuxième frappe un peu désespérément, mais qui loge sous la barre, c'est quelque chose de vraiment important, et surtout ça contraste avec d'autres joueurs du secteur offensif qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Alors, Pastore, on l'a très peu vu, mais sur ce qu'on a vu, c'est quand même très en dedans, à la fois la performance de manière globale, mais aussi l'attitude. Patrick Schick, on en avait parlé avec Stanislas Touchot, avec qui on avait fait le bilan de mi-saison, du point de vue caractère, c'est quand même un peu léger aussi pour s'affirmer à la Roma. Et lui, il a tout ça pour le moment, donc c'est vrai que c'est important. Homme du match de Sky, évidemment. Sky qui a fait un focus de 15 minutes après la rencontre sur lui, où tout le monde en a dit du bien, donc bon, ça c'est...
Et on peut aussi rappeler que Mancini l'avait appelé à l'époque, oui. Il l'avait convoqué alors qu'il n'avait aucun match en Serie A. Ce qui était quand même assez anodin.
Et Mancini a réagi depuis ce week-end en disant, voilà, tout le monde me traitait de fou quand je l'avais appelé. Mais il disait, moi, j'avais des infos que le grand public n'avait pas. Et ces infos-là, c'était que il est clairement en avance sur son temps, ouais. Et que c'est un gamin, qui a beaucoup de talent. Sur cette rencontre-là, outre Zaniolo, un joueur qui a eu du temps de jeu, c'est Rick Karsdorp. Le néerlandais qui est arrivé blessé, alors ça c'est une spécialité un peu aussi de la Roma ces dernières années, enfin depuis une bonne dizaine d'années, c'est de recruter des joueurs blessés, ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. En le recrutant, il savait qu'il serait absent 4-5 mois déjà, ensuite il a rechuté, bref, il a quasiment pas joué, ça n'a pas été un choix de l'entraîneur, c'est juste qu'il a été blessé tout le temps. Et là, disons qu'il a enfin débarrassé de ses problèmes, espère-t-on, et lui l'espère, il était en interview à Roma Radio ce mardi matin en disant c'est dur après avoir été absent aussi longtemps de se remettre dans le sens de la marche. Mais alors il a, comme beaucoup de joueurs qui reviennent, hein, beaucoup de volonté, beaucoup de bonnes choses, mais aussi quand même des difficultés, et notamment tactiques. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir l'après-match sur Sky, mais quand ils ont interviewé Di Francesco, l'entraîneur de la Roma a quand même donné un espèce de cours magistral, image à l'appui, sur pourquoi Karsdorp, lors d'une phase de transition de contre-attaque pour le Torino, s'était mal positionné. Il était mal sorti, je crois que c'était sur Iago Falque de mémoire en première mi-temps, qui transmet ensuite à Belotti, plutôt que de couvrir la course de Belotti et assumer le 3 contre 3 avec des duels individuels, c'est-à-dire chaque joueur avait son attaquant, et ben lui il a décidé de sortir sur le porteur du ballon, donnant une offrande à Belotti d'aller en face à face avec non, d'ailleurs, c'est Belotti qui donne le ballon plutôt pour Iago Falque qui frappe sur le poteau. Et voilà, ça c'est clair que tactiquement il est encore pas tout à fait au point et que les mécanismes de défense et la rigueur italienne, il faudra la capter assez rapidement parce qu'on sait qu'en Italie c'est quand même un point essentiel.
Après, comme tu dis, dans l'envie, pour le coup, on peut pas lui dire grand chose, parce que c'est vrai que j'aime une action, tu te rappelles de l'action en première mi-temps où il dribble un peu sur le côté droit, là.
Ouais.
Il dribble deux joueurs, donc, c'est vrai que dans l'envie, sur ce qu'il a apporté, c'est vrai qu'il a été irréprochable. Après, il a calé quand même en deuxième mi-temps où physiquement, on a senti que voilà, c'était compliqué. Mais voilà, moi aussi, comme toi, tactiquement, bon, il y a encore des lacunes. Mais bon, voilà, dans l'envie et même, voilà, physiquement, il a quand même tenu un peu le coup malgré son coup de moins deuxième mi-temps. Donc, écoute, ça peut être une ressource en plus pour Di Francesco, mais évidemment que tactiquement, il doit encore beaucoup, beaucoup progresser.
Autre observation rapide sur ce match, Pellegrini Cristante en double pivot de la défense. Ce que j'ai appelé sur Twitter le double pivot, le moins double pivot de l'histoire des double pivots. Voilà, quand tu joues avec deux numéros 10 à ce poste, alors on rappelle, c'est parce que De Rossi et Nzonzi sont... Alors, De Rossi était blessé, Nzonzi revenait plus ou moins de blessure et avait besoin de souffler aussi. Bon, des gros problèmes de placement et de lecture du jeu dans les phases défensives, mais ça, quand on est deux numéros 10 positionnés devant la défense, c'est toujours un peu compliqué.
De Rossi, c'est long quand même, hein.
Oui, c'est un problème de ménisque, je crois, et de cartilage, je crois.
Ça commence à faire quelques temps, quand même.
Sérieux, au genou, ça doit faire 2 mois, à peu près, et bon, le problème, c'est que c'est chronique, hein, donc, ça peut revenir du jour au lendemain, l'empêcher de s'entraîner, voilà, donc après, il faut tout reprendre à zéro, etc., donc c'est très, très compliqué. Et puis, vu qu'on parle des blessés, hein, encore un blessé, Shane Gisender.
C'est le combienième?
Alors, logiquement, alors, en fait, le problème, c'est que les journaux ne sont pas d'accord entre eux et les médias romains. Donc, ça varie en gros entre 35 et 40 blessures et entre 24 et 27 blessures musculaires. C'est quand même signe que les gens ont du mal à suivre, hein, pour que tout le monde n'ait pas le même chiffre oui. final. C'est quand même pas
ils
possible.
Ils ont perdu le fil. Là,
ouais. Exactement. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que.
Ouais, mais donc Pastore a 24 blessures à lui tout seul. Tu peux le préciser aussi.
Pastore a quand même pas mal de blessures musculaires également à lui tout seul. Mais bon, c'est une catastrophe et visiblement et c'est pas prêt de s'arranger. Et puis du côté du Torino, il y avait quand même deux joueurs qui étaient absents, hein, majeurs, Baselli et Meite au milieu de terrain. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros handicap pour. Pour le taureau, bon après.
Belotti, tu l'as trouvé comment?
Écoute, moi, j'ai un peu de peine pour lui parce qu'il a tellement peu de bons ballons à se mettre sous la dent que, voilà. En plus, quand Mazzarri sort Iago Falque en deuxième mi-temps assez rapidement, bon, bah, la tactique du Torino, c'était clair, hein. Les trois défenseurs centraux balançaient des pavés sur la tête de Zaza et Belotti. Donc, bon. Je suis vraiment pas convaincu. Là, pour le coup, on se moque généralement en parlant de jeu minimaliste, en tournant en dérision cette fameuse phrase de Dugarry à l'époque. Mais là, le Torino, là, clairement, ouais. C'est vraiment du jeu minimaliste. Encore sur ce match, c'est. Après, ça a fait le job parce que bah, il jouait les longs ballons et les deuxièmes ballons. Et quand les milieux de la Roma étaient un peu fatigués, Cristante Pellegrini qui avait du mal à se trouver et à se situer surtout, bah, ça leur donnait des opportunités. Mais c'est vrai que c'est quand même.
Je sais pas ce que t'as pensé dans le Saldi, mais moi je l'ai pas trouvé mauvais pour le coup.
Bah écoute, un poste qui n'est pas le sien.
Oui, en plus.
Parce que là,
plus,
il était donc il était milieu, oui. Comment on appelait ça, milieu relayeur entre guillemets dans le 3-4-3.
Et j'ai trouvé intéressant.
3-4-2-1 d'ailleurs plutôt que 3-4-3. Je l'ai trouvé aussi très intéressant, plus intéressant que quand il joue sur le côté d'ailleurs. oui. Ça a peut-être donné des idées à Mazzarri, même si faut quand même rappeler que c'était dû à ce que je disais en préambule aux absences de Baselli et de Meite, donc bon, est-ce qu'il continuera ce poste-là? Je suis pas persuadé, mais c'est vrai que comme toi, j'ai trouvé Ansaldi très intéressant à ce poste-là. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur ce Roma Torino. Ouais. On va passer au match suivant. C'était le Inter Sassuolo à 20h30 à Milan. Alors, si tu veux, puisqu'en préparant l'émission, toi tu m'as donné beaucoup d'axes Inter, et moi je vais garder un peu Sassuolo qui est un peu mon chouchou quand même. D'ailleurs, on va donner un petit rendez-vous, parce que là on avait beaucoup de choses déjà cette semaine, mais on pourra entendre Mehdi Bourabia dans le podcast numéro 25 qu'on fera la semaine prochaine.
Et on peut préciser que ton papier Sassuolo d'ailleurs sur Eurosport.fr qui est très bon et que je conseille à tout le monde parce que tu ne le feras pas par modestie. Moi, je le fais parce que je l'ai lu et comme l'a dit Twitter, c'est très intéressant avec le témoignage de Bourabia, donc je le conseille à tout le monde d'aller le lire.
C'est sur la méthode de Zerbi à Sassuolo. Ouais. Et donc, on aura aussi Mehdi qui nous parlera un peu de son arrivée à Sassuolo, de sa découverte de la Serie A, etc. dans le podcast la semaine prochaine. Je te laisse commencer par l'Inter et puis j'enquillerai sur Sassuolo derrière.
Ouais, bah, l'Inter qui marque pas. L'Inter qui marque pas, 0-0. En lisant quelques stats, voilà, j'ai pas suffi de tardis, c'est les 4 matchs qui marquent pas, ça commence à faire. Et le problème, comme le soulignent les médias, même aujourd'hui, pour faire un peu le bilan de ce match, c'est que bah, les ailiers marquent plus non plus.
Alors, je me permets d'intervenir. Déjà, est-ce que tu as remarqué la coïncidence que Icardi ne marque plus depuis qu'il y a toutes ces négociations, enfin toutes ces déclarations surtout, ce jeu de dupes autour de son contrat?
Ah, c'est vrai. Bah oui, tu vois, j'ai pas fait spécifiquement le lien parce que tu vois, moi j'ai toujours du mal à lier ça, mais c'est vrai. Mais pour le coup, c'est vrai parce que 4 matchs, on va dire, ça fait à peu près un peu plus d'un mois et c'est vrai que depuis que Vandana, tu sais, c'est quoi le problème aussi, c'est que sa femme et agent Vandanara est aussi consultante chez Mediaset.
Ouais.
Et du coup, tous les dimanches soirs, elle est donc sur l'émission Tiki Taka et du coup, à chaque fois, forcément, eux l'interrogent sur ça. Et du coup, l'Inter, apparemment, de ce que j'ai compris en interne, chaque dimanche, ils redoutent. Bien et ils ont raison parce qu'elle le fait chaque dimanche soir. Elle l'a encore fait le dimanche dernier où elle a dit qu'elle aimait pas être pris pour une conne. Enfin, des éclats quand même assez fortes. Et du coup, c'est vrai que l'Inter, il commence vraiment à craindre les éclats de Vanda.
Le problème, donc, c'est que t'as Icardi, un joueur qui est excellent. Mais le problème, c'est que quand t'as Icardi dans l'effectif, t'as aussi Wanda Nara avec. Et c'est vrai que ça fait partie des entourages de joueurs, un peu comme Mino Raiola, avec des déclarations incessantes et toujours un peu provocatrices, qui sont pas très bonnes, quoi. Donc, je comprends que l'Inter soit agacé et en tout cas qu'il ait peur chaque semaine d'avoir de nouvelles informations à démentir, à commenter, etc. C'est quand même pas très agréable.
Mais c'est vrai qu'on peut lier, tout à fait raison, qu'on peut lier cette période de non-but avec le fait que il s'est toujours pas rencontré avec ses dirigeants, il a toujours pas prolongé. Donc, c'est vrai qu'il peut être un lien de cause à effet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Icardi marque plus depuis 4 matchs. Je t'ai envoyé tout à l'heure la stat avec Politano et Perisic. Je crois que ça fait 13 ou 14 buts par là.
Ouais.
Donc, c'est pas énorme. Et c'est vrai que ça commence à être compliqué parce que quand tu joues contre Sassuolo samedi, dans un stade, qui était, où il y avait personne à part
trois quarts vides.
Aux trois quarts vides. Tu vois, on rappelle qu'ils avaient invité des enfants parce que c'était un match censé être à huis clos après les insultes racistes à Koulibaly. Donc, c'est vrai que dans le contexte, c'était compliqué. Mais c'est vrai, donc tu en parleras tout à l'heure, mais c'est vrai que Sassuolo, t'es pas loin de, aurait même mérité de gagner. Mais du côté de l'Inter, j'ai trouvé ça assez inoffensif, devant, les trois combinent pas beaucoup. Icardi me semble vraiment esselé. Alors, ça faisait quelques temps quand même que je le trouvais mieux dans le jeu. Et, on sait que Spalletti, à l'entraînement, il l'avait même déclaré à plusieurs reprises après les matchs, et il voulait que Icardi soit vraiment, concerné par le jeu et par la manœuvre.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a une période où tu te rappelles, on le voyait plus.
Exactement.
Plus redescendre, plus décrocher. Plus vraiment plus dans le cœur du jeu, et ça fait quelques matchs qu'il s'est reparti comme avant. Je le sens tout seul devant. Il est vraiment, il est perdu, il est au milieu de nulle part. Et c'est vrai que ça fait à peu près, ça fait 10+1 sur le terrain. Donc ça, c'est compliqué. Et ça se ressent parce que c'est 4 matchs qui marquent plus. Et quand ton meilleur buteur ne marque plus, c'est forcément qu'il y a un problème. Donc, à voir si par exemple tu peux faire jouer Lautaro Martinez dès le début du match. Dans ce cas-là, tu changes de tactique.
Ouais.
Et on sait que Spalletti, tu le connais bien. C'est pas un fan des schémas des deux attaquants, je pense pas qu'il va changer. Je vois pas, tu vois, mettre Martinez et Lautaro Martinez et Icardi devant avec Perisic derrière non, ça me paraît assez compliqué.
Disons qu'il aime bien avoir le surnombre au milieu de terrain, donc c'est pour ça qu'il aime bien avoir trois éléments au milieu de terrain.
Voilà.
Et là, s'il passe à deux au milieu, avec en plus des ailiers comme Politano et Perisic, je suis pas sûr que l'équilibre soit forcément hyper.
Et je vois pas honnêtement, je vois pas enlever ces deux ailiers. Donc honnêtement, je pense qu'il changera pas. Mais c'est vrai que tu vois, la Gazzetta aujourd'hui, je disais ça ce matin, où il disait, est-ce que Martinez serait pas la bonne solution pour que Icardi retrouve des buts? Donc, écoute, ça peut être aussi un angle de lecture, mais moi, je pense pas que Spalletti va changer son schéma. Et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu, même en l'écoutant, il reproche aussi à Martinez son jeu sans ballon.
Ouais.
Donc, le fait qu'il soit pas concerné forcément par la phase défensive, et c'est pour ça que pour le moment, il ne va pas jouer titulaire.
Perisic est encore clairement passé à côté. Oui. Politano a été encore sorti par Spalletti et ça a encore été très peu compris par les tifosi interistes, parce que c'était vraiment le joueur offensif le plus intéressant, celui qui crée le plus de danger, de décalage dans la défense de Sassuolo. Et c'est vrai que je me souviens plus de pour quel match on en avait déjà parlé, Guillaume, mais on avait déjà noté le remplacement un peu étrange de Politano, alors que c'était l'élément.
Je me demande si c'était pas avec des champions.
C'était contre le PSV peut-être.
Peut-être.
Le dernier match,
ouais.
Mais toujours dit qu'il a encore sorti à 10 minutes de la fin, donc quasiment un quart d'heure avec les arrêts de jeu. Je lisais un peu les réactions. Encore une fois, les gens ont eu du mal à comprendre. Entrée de Nainggolan qui a été insignifiante. Il y a quand même pas mal de soucis dans le secteur offensif. Après, défensivement, ils ont été mis en danger aussi. Et ça va me permettre de parler un peu de Sassuolo. On l'a déjà dit, mais on peut le répéter. Ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que, et Mehdi Bourabia le dit aussi, c'est que, peu importe l'adversaire, la mentalité et l'état d'esprit doivent être les mêmes. Et c'est très intéressant de voir que Sassuolo joue contre l'Inter comme il a joué contre l'Atalanta, comme contre Empoli, etc. Donc il y a eu des périodes de domination dans le jeu qui étaient un peu étranges parce que on se dit qu'avec un stade plein et les tifosi hardcore entre guillemets de l'Inter, ça aurait pu vite tourner en bordée de sifflets de subir sur certaines phases le jeu de Sassuolo. Moi, ce que j'aimais à Sassuolo, c'est la masterclass de Sensi. Encore une fois,
oui.
C'est vraiment un joueur.
Et le Barça sera intéressé d'ailleurs.
Hein. Ouais, il prend une dimension avec De Zerbi, je trouve, qui est assez énorme. Et puis surtout, il est très très important dans le jeu. On rappelle, il est placé devant la défense. C'est lui qui est à la la manœuvre et aux sorties de balles de l'équipe. C'est lui qui contrôle le rythme de cette équipe, qui oriente le jeu sur les côtés assez assez rapidement, parce qu'on sait que De Zerbi aime que le ballon voyage assez vite dans le pressing pour agresser l'adversaire qui est dans sa zone, pour pas lui laisser le temps de contrôler et d'avoir le donc ce temps de vision pour choisir la meilleure solution, etc. Donc c'est couper les lignes de passe, enfin j'en passe, c'est vraiment un joueur hyper intéressant. Il y avait un gros match de Boateng aussi en faux neuf, lui dans le don de soi, dans les
jeux Boateng,
les appels, ouais c'est ça, dans le jeu en remise et en appui, il était hyper juste. Bon, malheureusement Boateng a été prêté avec option d'achat au Barça. D'un côté on peut comprendre, hein, Boateng, voilà, le Barça ça repassera plus, c'est une offre de dingue pour lui et il est logique qu'il réponde. Il y a aussi le côté de Sassuolo qui c'est un peu logique et un peu, j'imagine, un gentleman agreement qui devait y avoir eu aussi, c'est en cas de grosse offre, bah on te laissera, on te libérera, etc. Mais c'est une grosse perte quand même pour cette équipe, parce qu'elle ne joue pas pareil quand il y a Boateng ou quand il y a Babacar en attaque, ou pire quand il y a Matri. Donc c'est vraiment une très très grosse perte. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est la lecture du match par De Zerbi, parce qu'il a vite vu que aux alentours de mémoire, ça devait être la 55e heure de jeu à peu près, le milieu de terrain de l'Inter prenait le pas sur celui de Sassuolo, commençait à vraiment monopoliser le ballon, à leur rentrer dedans, à trouver des espaces, etc. Et il a vite remplacé. Alors de mémoire, ça doit être Duncan. Et j'ai un trou, je n'ai plus l'autre joueur, par donc du coup sont rentrés Mehdi Bourabia justement et Magnanelli. Il a remplacé, donc c'était Djuricic, Duncan et Sensi. Voilà, c'est Sensi qui est sorti parce qu'il avait l'air un peu touché physiquement, et Duncan. Et donc sont rentrés Bourabia et Magnanelli. Donc Magnanelli a joué devant la défense, Bourabia a joué en poste de relieur droit comme d'habitude. Et ils ont amené beaucoup d'impact, ils ont récupéré la bataille du milieu de terrain en le densifiant. Et donc ça, c'est voilà, c'est la réponse d'un entraîneur. Tu parlais souvent de Gattuso qui avait du mal à lire les matchs. Là, clairement, il voit que son milieu de terrain est en train de prendre l'eau, alors que c'est une de ses forces. Et il change les deux tiers de son milieu pour rééquilibrer les forces avec des joueurs qui ont un peu plus de densité physique. Non, c'est vraiment très 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 intéressant. Mais encore une fois, il y a quasiment des regrets, puisque j'ai parlé à Mehdi Bourabi après la rencontre. Il disait que c'était prometteur, mais encore une fois. Des regrets, parce que Handanovic sauve 2-3 bons ballons, hein. Boateng a 2 grosses occasions, oui. Mémoire, dont une tête qu'il arrête sur sa ligne. Voilà, c'est malheureusement ça solo un peu cette saison. C'est très prometteur, mais dans les deux surfaces, ça manque un peu d'esprit de tueur, quoi.
De cynisme, ouais. Exactement. Après, moi, tu vois, pour un peu comme toi, moi, ce que j'ai aimé, surtout la personnalité, tu vois. Alors certes, c'est vrai que le contexte était particulier, le salle était pas plein, donc évidemment que c'est toujours un peu plus simple, entre guillemets, de jouer dans un sirop comme ça. Mais c'est vrai que tu vois, dans les sorties de balles, moi, j'ai vraiment bien aimé. Comme tu me dis, Sensi, c'était quand même exceptionnel. Mais moi, j'ai bien aimé, voilà, ils sont venus en faisant leur jeu. Et ça a presque marché, parce qu'honnêtement, on n'est pas les seuls à le dire. Tous les médias quasiment l'ont dit. Sassuolo aurait mérité de gagner. Voilà. Et comme tu dis, le problème, c'est que devant...
Alors, mérité, est-ce que il y a du mérite dans le football? Vaste question.
Écoute, on pourra faire un podcast sur le sujet si tu veux. Mais là, ça va être trop compliqué. Mais moi, voilà, ce que j'ai aimé vraiment, c'est la personnalité avec laquelle ils sont venus à San Siro, parce que c'est jamais simple. Après, voilà, ça aurait été peut-être mérité mieux, mais pour le coup, tu ramènes un point, c'était pas donné non plus. Donc voilà, tu peux être satisfait de la prestation. Et surtout, voilà, moi, s'il y a vraiment un joueur que je vais retenir, c'est quand même Sensi, parce que on en parle beaucoup quand même à Milan. Mais c'est vrai que de ce que disait Sky Italy, c'est vrai que le Barça aussi, dans le discours Boateng, aurait peut-être pris une option, tu vois, même dans les discussions, même, bon, on sait bien qu'une option morale ou orale ne marche pas beaucoup dans le foot. Mais c'est vrai que, tu vois, il paraît que le Barça quand même l'a supervisé plusieurs fois.
J'ai du mal à voir encore
évidemment.
Ça fait partie des joueurs où t'attends quand même un palier entre les deux, tu vois.
Est-ce que t'aurais vu Boateng?
Bah écoute, peut-être plus, parce que il aurait pas le même rôle, tu vois. Boateng, on sait qu'il va rentrer pour faire souffler Suarez, ouais. Tu vois. Mais là, Sensi, tu vois, il a déjà entre guillemets 23 ans. L'année prochaine, il en aura 24. Si c'est pour que il joue 10 minutes par-ci par-là, je vois pas trop l'intérêt d'aller au Barça, en dehors du prestige d'aller au Barça.
Non, mais il peut viser plus en Italie. Hein.
Ouais, voilà, c'est surtout
comme,
ça.
Tu vois, un club comme la Roma, Milan, comme Milan.
Exactement.
Je pense que voilà, c'est vrai qu'il y a un step entre les deux. Donc pourquoi pas l'été prochain, à mon avis. On va pas se mentir, je pense pas qu'il va s'éterniser dans le Sassuolo, parce qu'au vu de la saison qu'il fait, je pense qu'il aura beaucoup de clubs sur lui l'été prochain.
Alors, après ce samedi assez riche en émotions, hein, on passe sur Udinese et Parme, même s'il y a le but d'Okaka quand même, il faut noter le but de Stefano Okaka, exactement, qui a pris son élan pour rattraper Kevin Lasagna. À mon avis, ce sera pas trop compliqué en nombre de buts. On a eu un dimanche de feu, hein, surtout le début d'après-midi entre guillemets. Alors on parlera de l'Atalanta un peu plus tard dans les Dolce, le pêle-mêle footballistique dans le Dolce, le pêle-mêle footballistique à la fin du podcast. Et on parlera aussi de Fiorentina Sampdoria. Là, on va se concentrer sur dimanche soir, le match entre Naples et la Lazio. Et je vais te laisser en parler, car c'est le deuxième match que je n'ai pas vu ce week-end.
Mais qu'est-ce que tu faisais dimanche soir pour rater un tel match?
Écoute, figure-toi que ma curiosité m'a envoyé sur le derby Saint-Étienne-Lyon, pour essayer de voir un peu beaucoup de choses. C'est un dimanche très productif pour moi, puisque j'ai regardé aussi le championnat néerlandais. Voilà, c'est le vie ma vie. Mais voilà, je voulais voir un peu différentes choses pour ma culture personnelle. Et donc, j'ai raté ce Napoli-Lazio. Ce qu'on peut dire déjà au moins, c'est que la Lazio, contre les gros, c'est toujours échec et mat, entre guillemets. Défaite contre la Roma, contre la Juve, deux fois contre Naples, contre l'Inter, nul contre Milan. On peut ajouter une défaite contre l'Atalanta et un nul contre la Samp, les équipes qui suivent. Donc c'est très très compliqué pour cette équipe de la Lazio.
Comme tu as dit, le problème c'est que contre les gros ça va pas. Ils ont perdu quasiment tous leurs matchs, ils ont fait un match contre Milan. Donc c'est vrai, encore dimanche soir. Bon, au vu de la première mi-temps qu'à Naples, je crois qu'ils ont tapé 4-5 fois le poteau.
Ouais. Dans le match, ils ont tapé 4 fois les montants.
Ouais, 4 fois les montants. Bon, une fois, il était un peu hors jeu, mais bon, c'est quand même un peu tôt. Donc, c'est vrai que sur la Lazio Napoli, il n'y a pas grand chose à dire. Après, c'est vrai que de la Lazio, tu as quand même envie d'attendre et tu t'attends logiquement à ce qu'ils passent ce fameux step contre un gros. Ils n'y arrivent pas. Ça fait quand même quelques temps que ça dure. Tu t'en rappelles, on l'a souvent souligné dans les podcasts précédents.
Ouais.
Et pourtant, ça passe, ils n'y arrivent pas. Alors, est-ce qu'une victoire contre un gros sera aussi peut-être synonyme de déclic? C'est possible. Mais c'est vrai que là, c'est assez compliqué. Bon, Milinkovic-Savic, moi, je l'ai pas vu beaucoup. Il a encore été l'ombre de lui-même, peut-être pas tant que ça, mais il a pas été le Milinkovic-Savic qu'on a vu l'année dernière.
Il a été remplacé en fin de match et Simone Inzaghi a expliqué que bon, c'était pas une sanction, c'était surtout parce qu'il avait un carton jaune et qu'il avait peur qu'il soit expulsé alors qu'il reçoive la Juve. Et d'après ce que disait Simone Inzaghi le week-end prochain.
Ouais, tu vois, ils vont jouer la Juve le week-end prochain, donc ça va pas les aider dans leur conquête. Mais c'est vrai que dans la prestation, dans ce qu'ils ont mis, il y a une fin de match un peu plus chaude parce qu'ils étaient revenus à 2-1. Mais c'est vrai qu'avant, honnêtement, le Napoli en première mi-temps, donc. Autant les 20-25 premières minutes, il y avait vraiment une domination du Napoli. La Lazio est un peu ressortie après, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus la sensation qu'ils pouvaient les mettre en danger. Et pourtant, il faut rappeler que le Napoli était quand même décimé parce qu'il n'y avait pas Insigne, il n'y avait pas Koulibaly. C'était quand même deux piliers qui manquaient. Il n'y avait pas Hamsik, qui était en tribune aussi. Donc c'est vrai que c'était. Je pense que la Lazio, tu vois, ils avaient une occasion à jouer parce que quand tu vas à Naples, on sait que c'est pas simple, mais on sait aussi que quand il manque quand même les vrais joueurs. Titulaire, il y avait peut-être une occasion à faire et ils n'ont pas réussi. Après, voilà, les changements, ils n'ont pas non plus un banc, tu vois, et à la fin, il fait rentrer Patrick. Bon, j'ai rien contre Patrick, mais c'est vrai que.
On n'attend pas Patrick.
Ah, très bon ça. très bon ça, j'aime beaucoup.
Je t'en prie.
J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que pour le coup, on a sa coupe de cheveux très blonde. Il n'apporte pas grand chose, et c'est vrai que les solutions sur le banc, même en cours de match, j'ai l'impression que ça ne fait pas changer grand chose. Alors, tu as Correa qui est rentré à la mi-temps, et c'est vrai que pour le coup, il apporte toujours un peu de vitesse et un peu de folie de voir, un peu de fantaisie, mais c'est vrai que c'est très vite calmé et ça fait encore une défaite. Bon, Inzaghi a encore contesté à la fin. Après, avec l'arbitre, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu se diriger vers le corps arbitral au coup de sifflet final. Bon, après, voilà, autant contre le Torino, il y avait quelques décisions litigieuses, autant là face à Naples, il y a deux interventions très rude de deux joueurs de la Lazio qui auraient pu mériter rouge direct. Donc bon, j'ai pas trop compris pourquoi ils sont
en fait ils reprochent l'expulsion de Acerbi
oui,
en expliquant qu'il y avait aucun carton jaune qui aurait dû être donné.
Oui.
S'il prend deux jaunes et donc rouge, pour rappel.
Peu importe, mais voilà, ça fait quand même encore une défaite pour la Lazio.
Et côté Naples, Guillaume, tu disais que Hamsik donc avait été remplaçant. Fabian Ruiz au milieu, du coup, lui qui joue beaucoup sur le côté depuis le début de la saison. Là au milieu, tu l'as trouvé comment?
Hamsik n'était pas là, il était en tribune, mais c'est vrai que Fabian Ruiz dans l'axe, moi j'ai vraiment bien aimé. Techniquement, c'était très fort. Alors on sait que c'est un joueur très technique, mais dans le cœur du jeu, moi je l'ai trouvé très intéressant. Sa conduite de balle, il jouait maximum 2-3 touches dans sa conduite de balle. Dans ce qu'il a apporté, dans les mouvements, dans la sortie de balle, il a accéléré la manœuvre. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. De ce que je lisais des médias napolitains, eux aussi ont été assez satisfaits de sa prestation. Donc on sait qu'Hamsik, c'est pas non plus le Hamsik qu'on a connu à l'époque. Donc pourquoi pas, peut-être garder cette solution.
Pourquoi pas le mettre sur le banc.
Voilà, pourquoi pas. Alors après, on sait que c'est toujours compliqué
d'évoquer
ce sujet. Bah, évidemment, donc c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, Fabian Ruiz, dans le cœur du jeu, j'ai vraiment trouvé très bon. Donc à voir. Et devant, Milik, qui met encore un coup franc de dingue, qui est vraiment intéressant. Et puis bon, il continue à marquer. Et Mertens. Alors Mertens, je l'ai pas trouvé bon du tout. Vraiment, il a encore été moins bien.
Il est vraiment dans le creux, là.
Ouais, il est dans le creux, il marque plus. Non, moi, je l'ai vraiment trouvé en dessous. Mais autant Milik, pour le coup, il porte l'équipe à lui tout seul devant. On se rappelle qu'il marque, tu te rappelles, à Cagliari. À la fin, il marque à Bergame. À la fin, il les sauve. Là, c'est lui qui met le deuxième. Il les met un peu à l'abri. Donc, Milik, pour les trôner maintenant, je vais te dire que entre Insigne, Mertens et Milik, je pense que les deux seuls, on va dire, qui sont un peu indéboulonnables, c'est Milik qui est signé à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que Mertens, il y a un petit Naples-Milan Milan-Naples samedi soir prochain. Je suis curieux de voir qui va faire jouer devant Ancelotti. Je pense honnêtement qu'il va miser sur Milik qui est signé parce qu'il est signé revient.
Ouais, exactement. Insigne n'était pas là, donc il devrait être titulaire. Quelque chose à rajouter sur ce match-là, peut-être un petit mot sur Malcui, sur la perf de
Malcui. Écoute, Malcui, Malcui courant alternatif, moi je l'ai trouvé pas mauvais, il a été bon, surtout devant, offensivement il a beaucoup apporté, défensivement j'ai trouvé un peu moins bien sur le but de l'immobilier, il se fait un peu avoir sur son placement, il était un peu trop avancé, il était pas aligné avec ses défenseurs, donc c'est vrai que le but lui enlève quand même un bon point sur la note, mais il a été intéressant, mais par rapport à Isai, honnêtement, moi j'ai quand même une préférence pour Malcui dans le sens où je trouve qu'il apporte quand même beaucoup plus que Isai, donc je pense qu'il jouera même samedi contre Milan, mais après il a pas été assez sérieux dans le match, mais pour le coup on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. D'ailleurs sa moyenne, je crois, dans les médias napolitains, c'était 6,5, donc tu vois, c'était un match correct sans grande fulgurance.
Ok, bon, ils vont jouer donc contre le Milan
ouais, samedi soir 20h30.
Alors le Milan, et si on faisait un petit point sur Lucas Tolentino Coelho de Lima, qui comme son nom l'indique, s'appelle Lucas Paqueta, que tu as beaucoup aimé toi, sa prestation t'a intéressé au plus haut point.
Est-ce que tu veux que je sois honnête?
Oui.
Si tu veux que je sois honnête, on est tous les deux, donc je vais te le dire à toi, et aux auditeurs, honnêtement je pense franchement que c'est vraiment un crack. Les gens pourront enregistrer cette phrase et me la ressortir. Comme j'ai dit sur Twitter qu'il sera prêté à Amiens en 2022.
Surtout enregistrez-la.
mais moi je suis vraiment persuadé que c'est un crack. C'est peut-être parce qu'Amiens n'a plus l'habitude de ce genre de joueur, c'est possible aussi. Mais c'est un joueur de football. Voilà, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais.
On n'avait pas vu un tel pied gauche depuis Walter Birsa, je crois.
T'es vraiment sévère.
Non, c'est histoire de troller. Non. J'ai aussi bien aimé beaucoup d'aspects dans.
Évidemment. Alors les gens diront oui, il faut qu'il épure son jeu. Oui, évidemment. Ça on le sait. On n'est pas demeuré. On sait très bien que tous ces petits gris-gris peuvent arriver de temps en temps. Après voilà, moi j'aime bien sa façon de jouer. Comme dit Gattuso, c'est un joueur très européen, alors qu'il est brésilien. Donc il est aussi très concret. Il tape encore une fois le poteau. Donc au milieu de terrain, donc il était dans un 4-3-3, il était sur le même côté de Souza, donc côté droit, Et c'est vrai que dans la manœuvre, on sait que voilà, il la fluidifie, ça va beaucoup plus vite, c'est un joueur technique. On sait qu'à Milan, le milieu de terrain, c'est quand même le gros défaut depuis des années. Et avoir un joueur pareil, ça change quand même la donne. C'était vraiment, c'était très technique, dans sa vision du jeu, dans ce qu'il apporte à la manœuvre. Moi, j'ai vraiment, c'est une, deux touches. Et c'est vrai que ça, tout de suite, ça va beaucoup plus vite vers l'avant. Il verticalise, il a pas peur. Après, voilà, il y a son petit grillé qui a fait le tour des réseaux. Alors certes, s'il le fait vers son but, et après voilà, il y a eu l'occasion du Genoa parce que Conti il marche dessus. Mais sinon en soi, voilà, ça fait aussi du bien de voir des choses comme ça. Voilà, c'est vrai que c'était un peu dangereux, mais bon, à Milan, on va pas se plaindre non plus de revoir des dribbles, des choses comme ça. Ça fait du bien aussi aux yeux. Donc, écoute,
la séquence a quand même été très très bien clippée sur Twitter, hein, parce qu'on a vu que le geste technique. Évidemment. On n'a pas vu la grosse cagade derrière le geste
évidemment,
technique.
Évidemment, mais c'est Conti qui le bloque. Toi, Conti, s'y attendait tellement pas.
Ouais. Hein, on va pas se mentir. Si on avait laissé l'action se dérouler sur les clips sur Twitter, on n'aurait pas été aussi chaud, entre guillemets, sur ce geste-là de Paquetta.
Je sais pas si t'avais vu la Super Coupe Milan-Juve mercredi, c'est vrai qu'on n'en aura pas parlé, du coup.
En partie.
Voilà, où la Juve s'était imposée, mais Paquetta, moi, j'avais déjà trouvé intéressant, même contre la Samp, c'est il y a 2 semaines, du coup. J'avais déjà trouvé bon. Donc, honnêtement, je pense que c'est vraiment, ça peut devenir un très, très bon joueur. Je vais pas mentir, je pense que si Leonardo a mis 35 millions sur lui, moi, honnêtement, j'ai pas grand doute sur le potentiel du joueur, parce que Leonardo, sur les Brésiliens, il se trouve jamais. Il avait ramené Kaká à l'époque, il avait ramené Pato, donc bon, j'ai pas de doute là-dessus. Après, voilà, va falloir qu'il s'adapte au football italien, qu'il va falloir à la tactique. On sait qu'en Italie, c'est prioritaire. Mais voilà, il fait sacrément du bien au milieu du Milan, et techniquement, c'est quand même, on sent que c'est quand même une marche au-dessus que tous les autres. Voilà. Puis après, t'as Suso qui est devant, donc, sur le côté là, c'est vrai que c'est mieux. Mais alors, moi, je suis aussi en train de penser, mais Paquetta est intéressant.
Avec le retour de Conti, ça risque d'être le côté fort, hein, de...
Et tu sais, le problème de Conti, c'est que, bon, là, il a joué parce que Zapata est sorti blessé. Mais, Gattuso a encore du mal à le mettre titulaire, hein. Il l'a pas encore mis une fois.
C'est normal, il revient de tellement de mois faut être hyper prudent avec ces joueurs-là. Moi, ça me choque.
Évidemment.
Pas
spécialement. Évidemment. Après, tu vois, il a fait 80 minutes, même plus. Écoute, moi, je pense qu'il sera peut-être temps aussi bientôt de lancer titulaire. Après, je suis d'accord avec toi, hein, il vient de 2 ans de blessure. Il y avait rechuté, on se rappelle, ça a été très compliqué. Évidemment, il faut être prudent, et Gattuso, il le sait. Donc, là-dessus, je le reproche pas, hein. C'est pas un reproche, mais c'est vrai que, Conti, en 3 semaines, c'est 2 passes décisives. Ouais. Donc voilà. Alors, moi, je sais pas ce que t'as pensé sur Paquetta, mais ton avis m'intéresse.
Écoute, j'ai trouvé évidemment très intéressant. J'ai bien aimé certains aspects toniques de son jeu.
Oui.
Des appuis très costauds, des changements de direction intéressants, sans faire trop de grillerie, même si évidemment il y a ce geste dont tout le monde parle aujourd'hui et qui fait le tour des réseaux sociaux, mais vraiment se focaliser sur ce geste-là. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ça peut se comprendre. Pour ceux qui ont vu le match, ça serait vraiment dommage, parce que il y a des choses que j'ai bien aimé, notamment son intelligence dans certains choix. Alors évidemment, ça reste à perfectionner, mais voilà, quand il a vite vu que on sait que certains jeunes joueurs, quand ils ont pas la solution, bah ils vont essayer l'exploit individuel ou tenter une frappe de loin, etc. Lui, quand il voyait qu'il y avait pas de solution, non, il posait le jeu, il retrouvait un partenaire au milieu de terrain ou sur le côté. Donc ça, c'est intéressant, ça montre quand même une certaine maturité déjà du Brésilien. Après, il y a évidemment encore plein d'aspects à améliorer, notamment sur les phases de transition où il se fait sauter trop rapidement parce qu'il n'est pas habitué à se repérer par rapport aux autres. Enfin, je pense que vraiment l'un des problèmes essentiels, c'est ça va être, mais comme pour beaucoup d'étrangers qui arrivent, hein, et qui n'ont pas cette notion tactique-là, c'est vraiment savoir se situer par rapport au reste du bloc. Et ça, c'est un travail qu'il va faire à l'entraînement. Un travail de précision, presque d'orfèvre, mais ça, s'il est intelligent et qu'il a envie de progresser, etc., ça viendra. Je me fais pas trop d'oucis. Après, ses qualités techniques, elles sont évidentes. J'attends de voir aussi sa frappe, parce qu'il a l'air d'avoir une bonne petite frappe de balle. Donc j'attends de voir de manière plus régulière, entre guillemets, enfin jusqu'à la fin de la saison, voir ce qu'il est capable de faire. Mais c'est un joueur qui m'a plu, mais il m'a peut-être pas autant plu que Donnarumma sur ce match-là.
Oui, tu peux le dire.
Qui encore une fois, on va pas dire sauve la baraque, parce qu'au final Milan s'impose quand même 2-0, mais Tu sais, je regardais les expected goals, mes fameuses expected goals, sur ce match-là. On est quand même à 1,74 pour le Genoa et 1,47 pour Milan.
Ouais.
Donc,
oui, bah, c'est pas étonnant, ouais.
Voilà. Donc, encore une fois, il fait quoi? 2-3 arrêts vraiment très impressionnants. Voilà, cette saison, il est en train de. C'est Stanislas hein, qui disait ça, je crois, lors de notre bilan de la demi-saison, en disant que après une période où il avait explosé, il était un peu retombé dans le creux. Et puis là, il est en train de repartir. Ça y est, on sent qu'il progresse, qu'il gagne en régularité, peut-être en maturité aussi, plus calme, peut-être plus concentré aussi. Mais vraiment, ce qu'il a fait sur ce match-là, c'est quand même encore hyper costaud.
Évidemment, et on peut aussi souligner, en plus de Naruma qui fait quand même 3-4 très beaux arrêts, aussi Bakayoko, hein, qui a ouais. encore confirmé son gros match. Moi, je dois t'avouer que je suis amoureux de ses contrôles orientés, dos au but adverse. Il prend des risques assez, on va dire, énormes, et il y arrive à chaque fois. Donc, il émet toujours le premier pressing, toujours son vis-à-vis. Donc, je trouve ça assez impressionnant, et dans la dimension physique, évidemment, qui domine ses adversaires. Mais c'est vrai que pour le coup, maintenant, les supporters demandent et le rachat, et on sait comment.
Et alors, quoi. Est-ce que tu l'aimais, ces 35 millions?
Écoute, au vu des prix aujourd'hui, j'ai envie de te dire que 35 millions en soi, au vu des matchs qu'il fait, j'ai envie de te dire pourquoi pas, même si c'est énorme, j'en ai conscience. Après, je pense que de ce qui se dit à Milan, quand même, c'est que c'est pas impossible que tu vois dans le deal un peu Higuain. Milan et Chelsea n'aient pas discuté d'avoir peut-être une petite solde sur peut-être le prix de
c'est la période en plus.
En plus, voilà. Mais pourquoi pas, tu vois, peut-être qu'à la fin de la saison, plutôt que de tout de suite lever cette option, pourquoi pas aussi voilà, négocier avec Chelsea, genre les 20-25 millions, moi ça me semblerait quand même le bon prix. Mais au vu des matchs qu'il fait maintenant, dans un poste de 6 quand même, où moi j'avais quand même beaucoup de doutes, j'ai pas peur de le dire, c'est quand même assez impressionnant. Et à ce niveau-là, il est tout simplement irremplaçable pour l'heure. Après, il y a Bilia qui va revenir, ton ami, donc je sais pas comment ça va se passer. Je pense que Bakayoko va peut-être repartir dans un rôle ou de 8 ou
J'imagine bien un milieu quand même.
Ouais.
Il faudra laisser le temps à Bilia de revenir, hein. Mais Bilia en 6, Bakayoko à sa droite et Paqueta à sa gauche.
Du coup, tu mets qui sur le banc, ouais.
Oui, en l'alternant avec Bakayoko peut-être.
Oui, je pense aussi.
Voilà, mais voilà. De toute façon, avant que Bilia redevienne indiscutable titulaire, il faudra aussi du temps, rien que sur l'aspect physique, évidemment.
Mais en tout cas, on peut dire que c'est quand même une belle victoire du Milan. Ils sont passés quatrième, c'était important. C'est lundi à 15h, donc voilà, c'était aussi un bel horaire qu'on peut souligner. Hein.
Oui,
on soulignait pas assez.
Bien sûr.
Voilà, puis voilà, on sait que voilà.
Bah, on sait que personne travaille le lundi à 15h.
Exactement. Bah, d'ailleurs, le site était vide. J'ai trouvé ça honteux, mais.
Ouais.
Mais voilà, comme quoi
les gens aiment pas trop. Ouais, comme quoi les gens aiment pas trop le foot en italien, hein, visiblement.
C'est fou, hein.
Ouais.
C'est fou.
Et
puis, passons au prochain.
Qu'est-ce que t'as pensé de Frosinone pour le marché chinois à 12h30 dimanche? C'est pas mal, hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par Frosinone en Asie.
Tu sais, j'ai même regardé, hein. J'ai regardé la première mi-temps. J'ai trouvé qu'à la deuxième, j'avais compris que Zapata allait marcher sur l'eau.
J'ai regardé le match, mais j'imagine qu'à Séoul, on était comme des dingues devant le match. Voilà, c'était, c'est incroyable, quoi. C'est une programmation vraiment fantastique.
Bah, même le dimanche à 15h.
Donc, l'occasion de revenir quand même sur la perf de l'Atalanta.
Avec quelques
stats. Meilleure attaque de Serie A, 44 buts en 20 journées, ils sont monstrueux. Zapata 13 buts sur les 7 derniers matchs, c'est tout autant monstrueux. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, et je regarde ça en détail depuis quelques semaines, c'est qu'elle est injouable dans le domaine aérien. Vraiment aussi bien défensivement qu'offensivement, mais peut-être encore plus offensivement. Sur coup de pied arrêté ou sur attaque, on va dire placée, qui passe par des centres et qui aboutissent dans la surface, ils sont vraiment injouable, et c'est vraiment une équipe qui est extrêmement difficile à contrer sur ces phases de jeu, parce qu'elle a à la fois des bons centreurs ou des bons tireurs de coups de pied arrêtés avec Ilicic, avec Gomez, le Papou Gomez, Pazalic est pas mauvais non plus dans sa qualité de centre, les latéraux entre guillemets, parce que on sait que ça joue souvent avec une défense à 3, donc c'est plus des quasiment des milieux de terrain, hein, de côté, que ça soit Attebourg, que ça soit que c'est Feulner qui joue aussi là parfois. Enfin voilà, ils ont beaucoup de joueurs qui sont en capacité d'amener des ballons dans dans la surface de réparation. Il y a Martin de Roon qui est excellent au milieu de terrain aussi. Là, c'était Castagne qui joue à gauche, mais c'est pas toujours Castagne. J'ai perdu le nom. C'est l'allemand. J'ai perdu son nom. Si tu l'as, c'est bien. Si tu l'as pas, c'est pas grave.
Gossens.
Gossens.
Ah, Gossens. Ouais. Il faut dire que les joueurs de Talenta ont des noms quand même particuliers.
Hein. Et qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi. Hein.
Oui. Oui, c'est pas fou.
Il y a des Belges, il y a des Suédois, des Polonais, des Allemands, des Argentins, des Colombiens, Pazalic, les Croates, il y a des Néerlandais avec De Roon et Attebourg, Toloi est brésilien, Mancini est italien, Berisha, il doit être albanais, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de nationalités différentes, mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut dire sur cette équipe de l'Atalanta, c'est qu'on continue à jouer, à produire du jeu, à beaucoup marquer. Et ce qui va être intéressant pour cette équipe, c'est que là, elle va rentrer vraiment dans une période décisive. Hein. Ils reçoivent la Roma et ils vont sur la pelouse de la Juve.
Et après, ils vont jouer à Milan, je crois, dans pas longtemps.
Pas longtemps après, je crois que c'est deux journées encore après.
Ouais.
Ils jouent Milan, donc.
Et Mancini qui a encore marqué, hein.
Ouais.
Mancini qui a encore marqué, donc le, je sais pas combien de buts il est, il doit être bien.
Il a 4 buts,
hein.
Je crois.
Ouais. Hein, donc.
Il me semble qu'il y a aucun autre défenseur. J'ai plus la stat malheureusement d'Opta, mais ça doit être quelque chose comme il y a pas aucun défenseur aussi jeune qui a marqué autant de buts que lui dans les 5 grands championnats. Ouais. C'est absolument pas français ma phrase, mais c'est parce que je suis en train de meubler.
Mais j'ai peur qu'il...
et de chercher en même temps.
Ouais. J'ai peur qu'il parte l'année prochaine. Mancini.
Voilà, Gianluca Mancini est le défenseur le plus jeune a marqué au moins 4 buts dans les 5 grands championnats européens. Donc c'est quand même c'est quand même notable. Oui, il devrait partir sans doute et on l'annonce notamment du côté de la Roma qui cherche désespérément un défenseur central. Tu voulais parler de Luis Muriel.
Bah oui, quand même, parce que Luis Muriel est revenu en Italie, il a signé à la Fiorentina. On se rappelle qu'il y avait eu un duel avec Milan, mais Milan arrivait trop tard dans ce dossier. Et ben Muriel, il a mis quand même deux sacrés buts pour son premier match. Physiquement, il a l'air quand même en forme. Son accélération, je conseille de la revoir si c'est possible. Sky a fait un ralenti en visio, tu vois son visage.
Ouais.
Il est vraiment, tu vois, il est dans son effort le plus complet, où il souffle. Et je trouvais ça assez impressionnant. Et l'accélération qu'il fait sur le deuxième but, moi c'est ça m'a assez scotché. Après avoir dribblé deux joueurs, on rappelle que la fuite était à 10. Donc Muriel a fait un gros match. Il a fini tout seul devant. Alors après il a été remplacé, mais il a fini tout seul devant quand Simeone est sorti. Mais voilà, Muriel, écoute, ça pourrait être un joli coup pour la Fio. On sait que Piazza a terrassé des Genoa, donc c'est pas exclu que Piazza qui aurait dû faire une meilleure saison à la Fio, bah part cet hiver. Mais Muriel, ouais, il a apporté cette vitesse, il a apporté cette profondeur. On sait très bien qu'en contre, il est dévastateur. L'accélération qu'il fait, honnêtement, si vous l'avez pas vu, regardez là.
Alors, il est dévastateur s'il garde ce physique-là, ce qui n'est pas gagné non plus.
Mais tu sais qu'à sa sortie, je l'ai trouvé. Je sais jamais moi si c'est le maillot qui boudine un peu ou pas, mais je l'ai trouvé pas très fit. Alors, je sais pas. Hein,
ah, moi, je le trouve quand même beaucoup plus fit qu'à sa période. Sampdoria et même Udinese, notamment le visage un peu émacié. Alors pour Muriel, hein, on se comprend, c'est pas non plus, on voit pas non plus les os proéminents, mais quand même, je l'ai trouvé en bonne forme physique. J'en avais parlé lors du dernier podcast où j'avais dit lors de sa présentation qu'il m'avait paru justement assez affûté, en tout cas bien plus que quand il jouait parfois à la Samp et à l'Udinese, où effectivement il avait perdu de cette tonicité, cette qualité d'explosivité. Qui sont une partie intégrante de son jeu. Et c'est ça qu'il faut aussi noter, c'est que c'est un profil totalement différent de Simeone. À voir si l'association réussira à prendre ou pas, ou si ça sera l'un ou l'autre. Mais effectivement, pour la Fiorentina, c'est quand même une recrue.
C'est un joli coup.
C'est un joli coup, une belle recrue.
Et il a déjà marqué 2 buts. Ouais. J'ai envie de te dire que ça fait peut-être
quasiment autant que Simeone. Ouais.
Voilà, donc honnêtement, il a vraiment été bon, même dans le. Dans l'intégralité du match. Alors certes, ça n'a pas été simple parce qu'ils étaient à 10, mais le but qu'il met, on est tout seul là, c'est quand même impressionnant. Plus avec Chiesa, ils ont bien combiné. J'ai bien aimé leur relation. Donc ça peut vraiment matcher. Donc ce serait bien parce qu'on sait que Muriel en forme.
On se croirait sur Tinder. Hein. T'as bien aimé leur relation, ça pourrait
ça
matcher. Hein, on se croit sur Tinder.
Eh ben écoute, j'espère franchement que ça va matcher entre la Fio et Muriel parce que Muriel en forme et Et dans un bon moment, ça peut être quand même un sacré joueur. Donc voilà.
Et puis je voulais conclure ce pêle-mêle footballistique par le choix qu'est en train de faire l'AC Milan de vendre Piontek. Je suis quand même assez étonné de ce choix. Alors ça serait arrivé cet été, j'aurais tout à fait compris. Quand tu vends ton attaquant qui a mis 52% de tes buts en Serie A cette saison, sachant que derrière lui, il y a que Kwame avec 3 buts et Pandev avec 2 buts, sinon c'est que des joueurs à 1 but. Il a débloqué beaucoup de situations grâce à un jeu de tête assez important sur des actions parfois un peu anodines ou des centres lointains où il réussissait des têtes incroyables. J'ai regardé un peu ses stats avancées. Il est quand même sur ses expected goals à 4 buts de plus par rapport à ce qu'il était censé marquer, donc il est en surperformance et ça n'a pas baissé depuis le début de la saison, donc ça prouve qu'il est régulier pour l'instant au Genoa. Sachant que s'il continue comme ça, ou même si il met que 5-6 buts dans la demi-saison, il arrivera à ses 20 buts et tu auras toujours tes 40 millions d'euros cet été, si ce n'est plus, parce qu'il peut y avoir des enchères qu'il n'y a pas cet hiver. Vraiment, je suis très étonné que le Genoa, qui n'a que 6 points d'avance, alors on peut dire que c'est beaucoup 6 points d'avance sur le premier relégable, mais en même temps, Bologne, qui occupe ce poste de 18e, s'est renforcé de son côté. On en a parlé lors du podcast 100% Mercato, en prenant Soriano et Sansone notamment, et c'est peut-être pas fini du côté de Bologne. Donc voilà, donc ça peut aller très vite dans le foot, hein. 6 points, c'est 2 victoires. La Roma est à la cave il y a pas longtemps et là ils sont à 1 point de la 4e place. Voilà, je suis très étonné de ce choix et il faudra faire très attention au joueur qui va venir pour le remplacer parce qu'on parle de Piaka notamment, mais Piaka il fait une demi-saison affreuse.
On parle de Sanabria aussi.
Sanabria qui en Italie n'a rien fait, qui a eu des passages très compliqués aussi en Liga en Espagne. Donc voilà, donc il faut se méfier. Hein. Certes, c'est une belle somme, mais et puis en plus, je trouve ça très décevant pour les tifosi du Genoa, parce que ça montre clairement que maintenant, c'est même plus une saison de passage au Genoa. C'est que 6 mois suffisent maintenant pour que tu sois vendu. Et clairement, la stratégie de Preciosi, on la savait. Hein. L'histoire de trading avec 90 joueurs sous contrat et des joueurs envoyés à droite à gauche, des mecs qui viennent 6 mois, qui repartent quand ils sont en échec, etc. Mais pour une fois que ça marche aussi bien, je trouve ça vraiment dommage de céder ton meilleur buteur et ta nouvelle coqueluche des supporters.
Écoute, moi j'ai écouté Prandelli hier après le match et c'est vrai qu'il a essayé de masquer ses déceptions, mais tu sens bien quand même que bon, évidemment que ça l'affecte parce que il perd son meilleur buteur comme tu dis, il a marqué plus de 50% des buts et il a une mission maintien que voilà, quand tu perds Piontek, évidemment qu'elle se complique donc. Moi aussi, je suis assez surpris. Après, Milan, pour le coup, Milan a fait son taf. Hein, y a pas grand-chose à dire.
Bien sûr.
Après, ils n'ont pas eu le choix, tu vois, de miser sur un joueur comme ça, dans le sens où Higuain, a voulu partir. C'est sa décision. Donc, Milan,
Non, mais du côté de Milan, moi, je trouve que ça se discute pas. Hein. Eux, ils font leur taf, etc. Moi, ce qui m'étonne vraiment,
c'est que le Genoa lâche pas aussi facilement.
Exactement. Hein. Et puis, vraiment, dans une saison qui est encore, tu vois, ils auraient 30 points. Tu dis là c'est large, allez on finit la saison en roue libre comme font beaucoup d'équipes hein. En Serie A quand ils atteignent les 35-36 points, après c'est roue libre jusqu'à la fin de la saison, ils auraient pu faire ça tu vois, ou en tout cas prendre ce risque. Là c'est vraiment pas le cas, donc je suis vraiment étonné et puis un peu déçu aussi pour je me mets à la place des tifosi du Genoa et
ils sont déçus hein, ouais.
Ils ont
communiqué, ils ont dit qu'ils étaient oui évidemment que de toute façon les Preciosi ça voilà c'est plus le grand amour, on le sait, mais c'est vrai qu'avec ce choix on se rappelle surtout que le directeur sportif Pellinetti avait dit avant tout ce pataquès, avait dit quand même que Piontek ne bougerait pas en janvier. Et c'est vrai que ça paraissait assez improbable, alors après le départ d'Higuain voilà ça a changé un peu tout. Mais c'est vrai que la position du Genoa avant tout ça était ferme. C'était Piontek ne partira pas. Et visiblement, l'offre de 35 millions d'euros plus bonus cash qu'a fait Milan, visiblement a convaincu. Parce qu'apparemment, dans le deal, il y aurait dû y avoir aussi des contreparties. Mais apparemment, il n'y a pas d'accord.
Si les contreparties sont Ali Lovic et Bertolacci.
Et José Mauri.
Ouais, voilà, je comprends que le Genoa dise donnez-nous à la limite plutôt du cash. Ce qu'il faut noter aussi, hein, c'est que là aujourd'hui, la presse suédoise en parlait hier. ça a été confirmé aujourd'hui. Oscar Hiljemark, le milieu de terrain, est blessé aussi. Hein. C'est un cadre de cette équipe. Il est titulaire quasiment à chaque match. Opération à la hanche, fin de saison hein, aussi. Donc attention quand même à pas jouer avec le feu du côté du Génois, qui a perdu un milieu de terrain qui était essentiel, qui va perdre son puis qui avait marqué un but entre parenthèses aussi. Tu vas perdre ton attaquant. Qu'est-ce qui reste derrière? Pandev, il a mis un but contre le Kievo, super. Oui, formidable.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est vrai que ça peut la deuxième partie de saison peut être compliquée, mais là Piontek, surtout que Piontek, on a vu le Genoa avec et le Genoa sans.
Bien sûr.
Lundi. Et honnêtement, d'ailleurs Crescito l'a reconnu. Il a dit, c'est un joueur. Il a dit à la mi-temps, du coup, il a été interrogé. Il a dit, mais c'est un joueur fondamental pour nous.
Bien sûr.
Parce que, bah, évidemment, que c'est en plus d'être ton buteur, c'est ton leader devant. Comme tu dis, par rapport aux expected goals, il en marquait, il superformait. Donc c'était une aubaine de l'avoir pour le Genoa, surtout en cette saison assez compliquée. Mais bah voilà.
Il faut pas aussi sous-estimer l'impact auprès de ses coéquipiers d'un tel départ.
Évidemment.
C'est que tu perds le joueur où tu savais qu'on lui donne un bon ballon dans la surface, ça pouvait faire mouche, ce qui t'apportait quand même un degré de confiance, même dans des situations compliquées, assez important. Maintenant que c'est plus le cas, attention.
Et surtout, c'est comment tu le remplaces. Ouais. Comment tu le remplaces. Le pire, c'est que tu sais très bien que Kwame va partir l'été prochain.
Ouais.
Donc bon, ce sera encore une autre histoire, mais c'est vrai que le Genoa, et d'ailleurs en Italie, ils appellent ça « i giochi preziosi », dans le sens c'est les jeux à preziosi, parce que lui, on sait qu'il il a une grosse entreprise qui fabrique beaucoup de jeux, beaucoup de jouets. Et du coup, voilà, on ironise beaucoup en l'appelant Giochi Preziosi parce qu'à chaque fois.
Bah, en même temps, voilà, c'est le nom de sa société aussi. Hein.
Oui, ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'appellent tous comme ça. Et voilà, comme je dis, c'est du trading. Il a acheté, Piontech, c'était 4 millions l'été dernier, il leur vend 35. Donc voilà.
Non, mais sur le plan économique, ça se justifie tant que le Genoa se maintient. Maintenant, derrière. C'est du très très court terme quand même, je trouve. Hein. C'est de pire en pire. Mais bon.
C'était ton coup de gueule de la journée.
Exactement. L'occasion de passer maintenant à une dernière rubrique oui. Sur la série B qu'on vous propose. On y pensait depuis le début de la saison et on a trouvé la personne idoine pour en parler. 4 joueurs à suivre cette saison en série B. Et pour parler de ce sujet sur la deuxième division italienne, nous sommes avec un spécialiste. Théo Sivaslian, j'espère que je le prononce bien. Salut Théo.
Salut. Salut à tous. Salut Guillaume.
Alors salut, Théo. Théo, tu es sur Twitter à travers le compte Série Bellissima. Un très beau jeu de mots.
Très beau titre.
Exactement. Donc spécialiste de la Série B sur votre compte Twitter et vous avez un site aussi. Vous évoquez évidemment les résultats, les performances des joueurs, des côtés historiques aussi de certains clubs et certains joueurs, des faits qui se sont déroulés ces dernières années en Série B. Et on voulait voir avec toi, on t'a demandé de choisir 4 joueurs. 4 profils à suivre lors de cette deuxième partie de saison en série B. Des joueurs intéressants qu'on peut faire découvrir à nos auditeurs. Alors il y en a un, bon on le connaît bien, on en avait parlé dans Calcio e Pepe, on y reviendra tout à la fin de cette chronique. C'est Sandro Tonali. Voilà, c'est le joueur de série B peut-être le plus connu actuellement.
Ah bon.
Et puis on t'a demandé donc du coup t'as 3 autres profils de joueurs à nous présenter. Je te propose de commencer par Luca Vido, qui joue donc au Perugia et qui est un attaquant de 21 ans, qui joue avec les espoirs italiens. Et exactement. Tu vas donc nous parler un peu de son profil.
Voilà, ben Luca Vido, donc il est âgé de 21 ans. Donc comme tu as dit, c'est un avant-centre italien international qui évolue à Perugia. Bon, c'est vraiment un vrai renard des surfaces et c'est un élément assez connu pour les suiveurs du championnat parce que il a passé quand même les 2 dernières saisons en prêt à Cittadella. Donc, en fait, il est arrivé en 2017 depuis le Milan AC en prêt, au terme de saison réussie avec la Primavera du Milan. Et en 2018, l'Atalanta l'a acheté au Rossoneri contre une somme d'un million d'euros. Et l'a de nouveau prêté en janvier dernier à Cittadella. Donc ses statistiques durant son passage au club, elles sont vraiment correctes pour un joueur de son âge. Pour 32 matchs disputés, pardon, il a inscrit 6 buts et réalisé 5 passes décisives. Donc c'est des statistiques tout à fait honorables et bien conscient de son potentiel. Les dirigeants lombards, ils ont donc décidé de le prêter en juillet dernier à Perugia, donc toujours en série B. Et donc son adaptation au club entraîné par Nesta, elle fut très rapide parce que lors de cette première moitié de saison, Vido, il a quand même inscrit 7 buts et délivré 3 passes D, le tout en 18 matchs de série B disputés. Donc c'est vraiment des belles statistiques et c'est à savoir que c'est un joueur qui possède un double profil. Il est à la fois capable de prendre la profondeur parce qu'il possède une bonne petite pointe de vitesse et un bagage technique vraiment intéressant. Mais il peut vraiment aussi également jouer dans un rôle un peu d'attaquant pivot, même s'il n'a pas trop la taille, parce que bon, il fait 1m82, je crois. Il est quand même un peu comme un bison, quoi, devant. On a l'impression qu'il pèse vraiment sur les défenses. Et moi, c'est cette impression qu'il m'avait laissé, parce que je l'avais vu jouer en août dernier. J'étais allé à Perugia, au Renato Curi de Perugia, lors du troisième tour de Coupe d'Italie, contre Nova. Ils avaient perdu 3-1 pour la petite histoire Perugia, mais il était entré en jeu, Nesta l'avait fait entrer en jeu. Et tout de suite, on sentait voilà, une vraie envie, une vraie force de sa part. Et il avait tapé le poteau, d'ailleurs, il avait trouvé le poteau, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est vraiment un espoir à suivre. Et comme j'ai dit, il a évolué dans toutes les catégories de jeunes de la Squadra Azzurra, de U15 à U21, donc c'est quand même pas rien. Et puis voilà.
Donc c'est un attaquant qui peut faire jouer les autres aussi, parce que si on reprend tes stats, il est à 8 passes décisives en 2 saisons, c'est ça, à peu près?
Il a disputé donc 32 matchs à Cittadella et il a réalisé 5 passes D en 2 saisons.
Voilà. Et après, il a fait cette saison donc 3 passes D aussi. Donc en gros, c'est un attaquant qui est capable de marquer et de faire jouer les autres aussi. C'est un attaquant qui se déplace bien du coup. Qui peut prendre l'espace, techniquement il est assez sûr, j'imagine, pour être à la création d'occasion, ou en tout cas à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, et aussi dans la surface capable de conclure.
C'est ça, voilà, exactement. C'est vraiment, comme j'ai dit, une sorte de double profil. Il est à la fois renard des surfaces, si vous regardez un peu ses buts sur YouTube ou quoi, on voit vraiment que la plupart de ses buts sont dans la surface. Mais comme tu l'as dit, voilà, il possède pas que ce profil-là et il peut faire jouer les autres. Et sincèrement, il peut, voilà, dans un rôle de pivot un peu, il permet de peser sur la défense et de réaliser des remises importantes pour les ailiers de Perugia. Je pense à Kingsley Michael, il y a Marcelo Falterano qui a signé là en janvier en provenance de Venise. Donc voilà, c'est un profil vraiment intéressant pour Nesta. Et il est moins pivot que Melchior, l'autre attaquant de Perugia. C'est plus une espèce d'entre-deux entre l'attaquant de profondeur et un attaquant pivot.
Alors Guillaume, Luca Vido, oui. Est-ce que tu en avais entendu parler quand il était dans la Primavera de Milan? Est-ce que c'était un espoir à suivre? Est-ce que son départ... Parce qu'on sait que Milan, ça fait quand même un petit moment qu'il sort pas beaucoup de jeunes joueurs. Ouais. Alors que il y a quand même un budget assez conséquent au niveau du centre de formation et de la formation de joueurs.
Ouais, on en avait parlé. Et d'ailleurs, je l'avais dit en off quand tu m'as dit que Théo allait présenter ce joueur. On en avait parlé et comme souvent, malheureusement, elle était partie. Après, on a un peu perdu sa trace. Après, t'as eu des joueurs comme Petagna, tu vois, quoi, voilà, on l'a un peu plus connu. Et maintenant, bon, tu vois, il se normalise, on va dire. Et c'est vrai que la formation de Milan perd un peu aussi de sa beauté, parce que tu penses vraiment ils sont avant-dernier ou dernier, je crois.
Ouais.
C'est compliqué. Mais c'est vrai que Vido en avait parlé. Mais après, malheureusement, comme beaucoup, on a laissé et puis on a un peu oublié. Il y a Calabria qui a réussi un peu à s'imposer en équipe première. Il y a Abate qui est sorti il y a quelques années maintenant.
Ça remonte un peu plus loin, ouais.
Ça remonte plus loin et puis il n'a jamais été non plus très fou. Qu'on se mente pas, ça reste un bon joueur, mais pas un grand joueur. J'attends toujours son premier centre réussi. Espérons que ça arrive un jour. Mais oui, Vido, j'en avais entendu parler beaucoup, mais voilà, je vais pas te mentir, après, c'est vite évaporé. Mais du coup, j'avais une question pour Théo, parce qu'en Italie, on aime beaucoup comparer les attaquants, les joueurs globalement, mais les attaquants en particulier. Si tu devais le comparer, un attaquant de Serie A, Qui tu prendrais? Est-ce que ça pourrait être Coutronné, tu vois? Est-ce que ça peut être le même genre qui lui aussi pour le coup sort de la formation de Milan? Est-ce qu'il est comparable par exemple à un joueur comme Coutronné, ou alors est-ce qu'il est peut-être plus technique, plus... Enfin, je sais pas, est-ce que tu pourrais le comparer à un joueur plus, peut-être plus connu pour les auditeurs?
Ouais, mais c'était, je pense que c'est un bon exemple d'avoir cité Coutronné, parce que comme tu le sais, comme tu suis Milan, Coutronné c'est un attaquant aussi, voilà, qui par sa taille permet de réaliser un jeu en pivot qui est important aussi pour le Milan, mais qui est aussi assez technique et vif. Donc ouais, je pense que Vido c'est une bonne comparaison en termes d'âge, en termes de parcours et en termes de jeu, de capacité technique.
Et techniquement, il est comment techniquement? Il est bon, ce que vous trouvez, on sait qu'il a quelques lacunes. Est-ce que Vido a peut-être plus de facilité à... Tu vois, dans le jeu, comme tu disais, le jeu au pied, un peu comme disait Johan tout à l'heure, il est plus technique que, par exemple, qu'un joueur comme Coutronné?
Plus technique, je suis pas certain. Après, disons que, ouais, il a quand même, je pense, certaines facilités qui lui permettent d'occuper ce rôle d'attaquant plus de profondeur. Avec sa pointe de vitesse aussi, ça permet que, comme j'ai dit, puisse jouer ce rôle et que aussi, voilà, il puisse à la fois être attaquant pivot. Donc ouais, je pense que ouais, il est assez limité.
Alors, ton deuxième joueur à mettre en avant, du coup, c'est un joueur qui est passé par la France, par Créteil notamment, et qui est ensuite allé très très jeune du côté de l'Inter sans s'y imposer. Malheureusement, c'est le lot de pas mal de joueurs. Aujourd'hui, il joue à Pescara, et on sait que Pescara, c'est une place très importante du football italien pour révéler des jeunes joueurs en leur faisant confiance, en leur permettant de disposer de pas mal de temps de jeu. C'est Andrew Gravillon. Il a 20 ans et c'est un défenseur.
Voilà, exactement. Mais comme tu l'as cité, ouais, Pescara, c'est vraiment le lieu ces dernières années qui a permis de sortir de nombreux joueurs. Je pense à Verratti, on peut penser à Insigne, Immobile. Donc, ouais, c'est vraiment le centre de formation italien par excellence. Donc, voilà, Gravillon, donc c'est un jeune défenseur central français d'origine guadeloupéenne qui est âgé de 20 ans. Donc, capable de jouer en tant que défenseur central et défenseur droit. C'est un joueur vraiment assez agressif, puissant, et par sa taille, 1m88, très à l'aise dans le jeu aérien. Et d'ailleurs, son entraîneur Giuseppe Pilone ne s'y trompe pas, puisque c'est véritablement une des hommes providentielles de Pescara en ce début de saison.
Et si tu devais le comparer, du coup, si on fait toujours le petit jeu des profils, est-ce que tu as un joueur en Serie A qui lui ressemble comme ça?
À la fin de la présentation, j'allais vous dire que Naples pensait à lui et vous voyez même en lui le futur Kalidou Koulibaly.
D'accord.
Donc bon, toute proportion gardée bien évidemment, mais dans le jeu et dans le... par sa taille, par sa puissance et son jeu aérien, il pourrait faire penser à Koulibaly.
Et balle au pied, au niveau des relances, on sait que Koulibaly, il est très très fort là-dessus, pied droit, pied gauche, il arrive à casser des lignes de passe adverses, le pressing des attaquants, etc. Est-ce qu'il lui ressemble un peu là-dedans, ou est-ce que c'est un peu plus rustre encore et qu'il y a beaucoup de progrès à faire sur sa qualité de relance?
Ouais, voilà. Alors sur ça, c'est perfectible à mon avis, parce que c'est quand même pas, il est encore loin de son niveau à Koulibaly. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un joueur intéressant qui dans la relance permet voilà à Pescara de réaliser des différences, même si voilà Koulibaly quand même est très fort pied droit, pied gauche, casse des lignes comme tu l'as dit. Donc on n'en est pas encore là pour Gravillon, mais à 20 ans seulement, c'est quand même déjà vraiment pas mal ce qu'il réalise. Donc c'est vraiment rassurant.
Donc c'est pour toi, c'est le défenseur le plus intéressant aujourd'hui en Serie B, du coup, à suivre, et qui pourrait atterrir dès l'année prochaine dans une formation un peu plus huppée en Serie A.
Ouais, bah, franchement, si on regarde les moins de 23 ans, là, comme vous m'avez demandé au niveau des espoirs, pour moi, oui, c'est le défenseur central à suivre. D'accord. C'est le défenseur central qui monte et qui, à mon avis, il parlait même d'un départ lors de ce mercato. Bon, je pense pas, parce que Pescara est quand même bien positionné. Mais c'est même possible que cet été, suivant ce qui se passe en Serie A dans tel ou tel club, c'est possible qu'un club pense à lui, quoi, pour pour le mettre peut-être titulaire d'entrée.
Alors, un autre, ton troisième joueur à mettre en avant, c'est un autre attaquant cette fois-ci, c'est David Okereke. J'espère que je le prononce bien, je suis pas sûr. Il joue à la Spezia, 21 ans, attaquant originaire du Nigeria, 14 matchs, 5 buts et 5 passes décisives, ai-je lu sur le site officiel de la Lega Serie B. Qu'est-ce que tu peux dire de cet attaquant du coup?
Exactement, donc âgé de 21 ans, comme tu l'as dit, 14 matchs disputés, 5 buts, 6 buts et 5 passes décisives réalisées. Donc comme on dirait un peu nos amis basketteurs, il est en double-double.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc c'est vraiment pas mal parce que c'est un avant-centre, mais quand on voit sa capacité à réaliser 5 passes décisives, à l'instar de Vido un peu tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de faire jouer les autres. Donc c'est vraiment précieux aussi pour une équipe et un collectif.
Alors c'est celui qu'on connaît un peu le moins de la liste, ou en tout cas qui a la moins grosse réputation entre guillemets. Son club est à la lutte pour... alors la montée directe sera peut-être un peu difficile, mais au moins pour les playoffs du coup. Même chose si tu devais essayer de comparer son profil à un attaquant qui évoluerait en Serie A, tu choisirais quel joueur ?
Sincèrement, je n'y ai pas trop pensé. Après, si on réfléchit un peu, qui c'est qui pourrait...
Est-ce que c'est un attaquant vraiment de finition du coup ? Il n'est pas très très grand. C'est un attaquant qui est assez physique, puissant.
J'ai pas de comparatif là qui me vient à l'esprit, mais ouais, c'est un attaquant qui est rapide, technique. C'est surtout ça, voilà, c'est ses principales qualités. Il est également un dribbleur puisqu'il peut jouer sur l'aile gauche ou l'aile droite, donc on peut le repositionner en tant qu'ailier. Et voilà, il évolue en tant qu'attaquant de profondeur, encore pareil comme Vido tout à l'heure. Mais lui, voilà, il n'a pas de qualité pour jouer en tant qu'attaquant de pivot. Ensuite, voilà, c'est l'un des plus grands espoirs pour moi à suivre durant cette seconde partie de saison parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on n'attendait pas trop. Il revenait la saison dernière d'un prêt à Corinthians en série C. Bon, qui avait été assez concluant parce qu'il a quand même disputé 33 matchs. Le club calabré est monté en série B la saison dernière. Il avait marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives. Donc, bon, à 20 ans, c'était quand même assez flatteur.
Donc, c'est un attaquant assez complet, un peu comme Vido qu'on a présenté un peu plus tôt. Quatrième joueur et le dernier, j'en ai parlé en introduction, c'est évidemment Sandro Tonali. Voilà, celui qu'on présente souvent comme l'héritier d'Andrea Pirlo, non seulement pour son positionnement, son style de jeu et aussi sa ressemblance physique, n'est-ce pas Guillaume? Oui. On avait pointé un peu cette même dégaine, cette même nonchalance, cette même coupe de cheveux, cheveux mi-longs, bien noirs, à l'ancienne. Voilà, Théo, c'est la star de la série B, c'est la future star c'est la star de série B, la future star sans doute du mercato estival parce que tous les gros clubs sont sur lui.
Exactement, pour vous dire, son agent là, Roberto Laflorio avait déclaré que la Juventus, l'Inter, le Genoa, Sassuolo, Bologne, Palerme ont demandé des renseignements sur lui.
Alors on peut déjà éliminer hein, Sassuolo, Bologne, Palerme parce qu'ils n'ont pas les moyens je pense.
Vu le prix, oui.
En précision, oui. Mais voilà, bon, après, on sait que l'intérêt de la Juve est assez fort. Le joueur, lui, a déclaré qu'il préférait pour le moment rester dans un environnement qu'il connaît, assez familial et où il y a moins de pression. Et puis, on peut aussi se demander si la Juventus pourra le faire jouer immédiatement. Donc,
ce qui n'est pas simple parce qu'il y a un milieu de terrain qui est quand même extrêmement fourni avec déjà 5-6 éléments de niveau international, donc c'est toujours un peu le même débat. C'est comme lorsque Verratti devait quitter Pescara, la Juve avait un peu tergiversé au final en hésitant, etc., parce qu'elle avait Pirlo à l'époque et des joueurs de qualité. Bon, là ils vont peut-être éviter de refaire la même erreur en laissant filer l'un des plus gros talents italiens du foot. Alors son profil, donc c'est un régiste, un milieu devant la défense.
Exactement, ouais. C'est un milieu capable aussi bien de jouer en tant que régista ou en tant que milieu relayeur. Et bien évidemment, il est doté d'une excellente qualité de passe, à l'instar de, d'Andrea Pirlo. Il est aussi capable de frapper de loin. Donc, c'est vraiment un joueur techniquement qui est assez impressionnant. Et il possède un profil physique idéal pour un travail de récupérateur et d'organisateur de jeu. Également comme Pirlo, il mesure 1m73 et l'ancien Milanais, lui, culmine à 1m77.
Alors la différence de Pirlo, en tout cas si on pense au Pirlo de fin de carrière, je trouve que Tonali a cette capacité à presser et à aller chercher dans les pieds des adversaires des ballons, de gratter un peu. C'est aussi un peu son défaut, parce que parfois il lâche un peu trop sa zone, et donc du coup s'il passe à travers de son interception, il y a gros danger pour son équipe parce qu'il a dézonné. Mais il est un peu plus tonique que le Pirlo qu'on connaît de sa fin de carrière, entre guillemets. Et c'est un joueur vraiment, moi, que j'adore, sa capacité à jouer long et à trouver ses adversaires lancés, ses coéquipiers lancés au but. Ça peut être les ailiers, ça peut être l'attaquant. Il a une qualité de passe au sol et de jeu long vraiment extraordinaire. Il est pas mauvais aussi dans les dribbles, il a des feintes de corps assez intéressantes, et c'est vraiment le joueur à suivre. Si on doit en retenir un seul, Théo, c'est vraiment celui-là.
Parmi les quatre, ouais, exactement. Et puis en plus, bon, pour ceux qui le sauraient pas, mais à mon avis les auditeurs le savent, c'est quand même le premier joueur de série B convoqué en sélection nationale depuis Angelo Ogbonna en 2011.
Ouais.
C'est quand même une statistique qui vous classe le
surtout
joueur.
Surtout qu'il a 18 ans.
C'est pas comme ça, hein, parce qu'en on l'a toujours vu beaucoup. Hein.
Surtout, voilà, en plus, surtout à 18 ans. Et depuis Ogbonna, c'est vrai que... Voilà,
c'est avec, si on doit réfléchir un peu à l'avenir du milieu de terrain italien, bien que Jorginho, Verratti ne sont pas très vieux, etc. Barella a déjà un temps d'avance. Mais si on prend la génération qui vient derrière, c'est Tonali, Zaniolo, des joueurs comme ça qui seront capables de, sans doute, si leur progression se confirme, il y a encore évidemment beaucoup d'incertitudes hein, quand les joueurs sont si jeunes que ça, mais qui seraient amenés à prendre le milieu de terrain de la sélection italienne.
Ouais, tout à fait. On peut penser peut-être aussi à Lorenzo Pellegrini, ou la Roma, même si c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment, mais... Mais ouais, c'est tout à fait ça. Et je pense que sa dernière convocation, et c'est vraiment un signe envoyé par Mancini qui souhaite faire place à la jeunesse et leur donner les clés tout simplement de la sélection.
Mais dans tous les cas, on est d'accord que Tonali partira à la fin de la saison.
Sauf peut-être pour moi s'il y a montée de Brecce en Serie A.
Et ils sont bien partis, enfin en tout cas pour le moment. Après on n'est qu'à la mi-saison, mais pour le moment ils sont quoi? Ils sont deuxième, c'est ça?
Non, ils sont pas deuxième, non. Ils sont pas loin des playoffs. Il me semble qu'ils sont vers la 8e place.
Ah d'accord.
Ah, oui. Mais voilà, c'est pas encore fait parce que bon, l'année dernière ils ont eu une saison très compliquée où ils ont fini en milieu de tableau. Il faut savoir qu'ils ont quand même eu le renfort du frère de Gianluigi Donnarumma, Alfredo Donnarumma. Tout simplement le meilleur buteur cette saison de série B avec 13 buts. Donc voilà, lui qui a terminé la saison dernière vice-meilleur buteur du championnat à Empoli, avait signé cet été avec le club lombard. Et lui et Tonali, c'est vraiment leurs deux joueurs phares. Et c'est sur ces deux-là qu'ils vont compter pour tenter d'arracher les playoffs et pourquoi pas monter en série A. Après, bien, c'est sûr qu'ils ne sont pas favoris à la montée, mais on ne sait jamais quand même.
Ouais.
Bon, et bien écoute, Théo, on te remercie pour ces quatre profils à suivre cette demi-saison à venir de Série B. On rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitter avec le compte Série Bellissima, le site internet également. Si vous voulez tout savoir du championnat italien de deuxième division, eh bien c'est la référence. Notamment, il y a beaucoup d'articles aussi historiques. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez parlé, je crois, des gardiens qui étaient passés par la série B qui aujourd'hui évolue en série A. Donc voilà, il y a beaucoup de choses évidemment sur le football italien et cette série B. On te remercie, Théo, et puis écoute, on fera sans doute avec toi si t'es partant un petit bilan en fin de saison pour évoquer les trois clubs promus enfin deux ou trois, on... oui, si trois clubs promus, les trois clubs promus et voir un peu ce qu'on peut attendre d'eux la saison prochaine. Merci Théo.
Ça marche. Merci.
Merci Théo.
Alors Guillaume, après cette intermède série B, l'occasion quand même pour boucler ce long podcast encore une fois. Nous ne savons définitivement pas faire court quand on parle de football italien. Je te propose de faire un point quand même sur la journée à venir de Serie A ce week-end. Enfin, du coup, ce week-end. Encore une journée bien découpée, hein, on peut encore le constater. Guillaume, ça commence par Sassuolo-Cagliari, samedi à 15h.
Ouais.
Tu regardes ou tu regardes pas? Moi, je suis amoureux de Sassuolo, donc je regarde, évidemment. Oui. Sampdoria-Udinese à 18h.
Je regarde.
Milan-Naples à 20h30. Et évidemment que tu regardes.
Je regarde.
Tu regardes avec ton maillot de Paqueta ou pas? Non, tu n'as pas encore de maillot Paqueta.
Je regarde, point.
pour le marché chinois, un néanmoins très alléchant Chievo-Fiorentina dimanche. Donc là, je pense que sur le Chievo, on est au max hein, de la hype asiatique.
Ouais, ouais.
Je pense que quand ils vont voir Stefano Sorrentino, 39 ans,
qui a arrêté un penalty à Ronaldo.
Exactement, c'est bien de le préciser, et qui a dit qu'il resterait jusqu'à la fin de la saison. Et ça,
oui,
c'est
bon. J'ai bien aimé cette déclat.
Exactement, pareil.
Tu l'as vu en direct?
Oui.
Ouais, moi, j'ai bien aimé. En plus, il a dit un ton assez affirmatif. Il a dit chaud Chievo, le Chievo tient à moi, je tiens à eux, je reste jusqu'à la fin de la saison. Du coup, j'ai pas voulu signer un employé.
Voilà.
Propre, des joueurs comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Hein.
Ensuite, on aura notre multiplex de 15h avec Bologne-Frosinone, Parme-Spal. Et peut-être ce qui va nous sauver, Atalanta-Roma.
Ah,
donc,
j'étais mal parti, hein. Pas te mentir que...
J'ai fait exprès dans l'ordre pour laisser le Atalanta-Roma, ouais, pour te laisser
commenter. Atalanta-Roma est vraiment pas mal. Hein.
Ouais. Ensuite, 18h, pas mal aussi, Torino-Inter. Torino qui continue, oui, son tour de force après avoir affronté la Roma à la reprise. 20h30, encore un très beau match, hein, Lazio-Juve. On a quand même beaucoup de chocs lors de cette journée, c'est vraiment une journée à ne pas rater. Lazio Juve, là encore, hein, match très, ouais, très important.
Tous les clubs qui jouent la quatrième place sont des gros matchs. Hein,
exactement.
Parce que tu as Atalanta Roma, Milan Naples et les Lazio Juve.
Exactement. Et puis, on finira lundi par un Empoli Genoa que nous ne suivrons pas. On va pas se mentir. Et du coup, on enregistrera le podcast le lundi. Et on le fera alors que ce Empoli Genoa n'aura pas été disputé. Mais écoute, nous assumons tout à fait
ce choix éditorial.
Exactement. j'aurais pas dit mieux. Il me reste donc à te remercier, Guillaume.
Merci à toi.
Comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas. Vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, sur Spotify, sur Deezer. J'en oublie encore, SoundCloud, Google Podcast, etc., etc.
Surtout noter.
Exactement, noter, dit Guillaume, mettez 5 étoiles, en gros, pour faire découvrir ce podcast au plus de monde possible. On fera une session de questions la semaine prochaine, on en avait quelques-unes, là je les ai notées déjà, mais je préfère qu'on garde ça pour la semaine prochaine, vu qu'on avait déjà un programme très chargé cette semaine. Et puis on se dit donc, du coup, à la semaine prochaine, et vive la série.
Salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.